Une famille, un testament, des livres, c'est la règle de Troie de Charles Bonaparte. Le destin m'a fait naître dans une famille qui a marqué l'histoire. Je descends du frère cadet de Napoléon, écrit-il aujourd'hui. Arrière-arrière petit-neveu de l'empereur donc, Charles voit le jour en 1950. Il est baptisé aux Invalides par le futur pape Jean XXIII et grandit dans un appartement du 16e arrondissement de Paris. Dans l'entrée, le visiteur était impressionné par la gigantesque toile de David représentant le franchissement du Grand Saint-Bernard par le premier consul. Il est élevé dans l'idée de devenir Napoléon VII, mais prend une toute autre direction. En mai 68, élève du très sélect lycée Janson de Sailly, il participe aux manifestations étudiantes et quitte la maison familiale. Je laissais derrière moi et pour toujours leur vieux monde. Jamais je ne regretterai cette décision qui a été l'étape fondatrice de mon chemin vers la liberté. Docteur en sciences économiques en 1976, il occupera plusieurs fonctions, du ministère des Finances à l'aménagement du territoire en passant par le conseil aux entreprises. Le testament de son père Louis, mort en 97, le déshérite totalement.
Ah, parce que j'ai divorcé, oui. Et puis aussi parce que je suis républicain. Alors ouais. Ça ne plaît pas toujours, que voulez-vous. Mais c'est ainsi. Je suis le fils de mon père, je ne peux rien.
Charles avait eu deux enfants de son premier mariage. Son fils Jean-Christophe, alors âgé de 11 ans, est désigné héritier légitime. Symboliquement, je décidais de changer de patronyme, d'abandonner celui de Napoléon, celui qui était inscrit sur ma carte d'identité depuis ma naissance, pour reprendre celui de Bonaparte. Ces 20 dernières années, Charles Bonaparte a consacré de nombreux livres à ses ancêtres. Bonaparte et Paoli, Napoléon mon aïeul c'est inconnu, ou encore Les Bonaparte des esprits rebelles, une galerie de portraits de personnalités de sa famille dont il se sent proche.
Cette famille, en fait, a joué un rôle très important dans la période charnière de la France entre l'Ancien Régime et la République. Donc ils sont en même temps attachés, on peut dire, aux règles de l'Ancien Régime, mais en même temps ils portent en eux les valeurs de la République. Et c'est cela qui me paraît intéressant.
Dans La Liberté Bonaparte, il revient sur son parcours et évoque sa vision de l'avenir, notamment en matière d'écologie. Inspirons-nous des qualités d'imagination et de courage des héros de l'histoire qui ont su mettre en œuvre des changements moins nécessaires que ceux auxquels nous devons consentir aujourd'hui.
Alors Charles Bonaparte, on connaissait le Bonaparte de la campagne d'Égypte, le Bonaparte du pont d'Arcole. On ne connaissait pas le Bonaparte de la rue Gay-Lussac. Vous avez fait mai 68, c'est ça?
Oui. Bah, y en a,
c'est un moment de rupture pour vous, justement.
Oui, ça a été effectivement un moment de rupture. Au fond, la révolte des étudiants de cette époque, la révolte de la société contre un ordre ancien, rejoignait en quelque sorte mes propres préoccupations. Donc je me suis fondu dans le mouvement de mai 68.
Jusqu'à avoir une révélation en vous approchant d'Alain Krivine, le leader trotskiste.
Non, je n'ai jamais été proche d'Alain Krivine. Ah. J'étais plutôt proche du PSU. Ah.
On va pas remuer ces lointains souvenirs, Benjamin.
Et c'est ce qu'a mal supporté votre père, alors, si on comprend bien. C'est mai 68 qui a été assez déterminant.
Ah, j'ai pas eu un très grand succès dans la famille, ouais. Hein, c'est tout à fait évident. Et pourtant, les Bonaparte, ce sont des fils de la Révolution, d'une double Révolution, d'ailleurs, en Corse d'abord, et puis de la Révolution française. C'est quand même l'homme qui a organisé la France selon les principes de la Révolution française. Et donc, il est étonnant que ma famille ne considère pas la Révolution comme étant, au fond, quelque chose de normal, les évolutions de la société, comme allant de pair avec Bonaparte.
Et vous avez été déshérité par votre père, on l'a entendu. Mais votre fils, alors Jean-Christophe, qui est l'héritier désigné, comment il vit, lui, eh bien, cette descendance, cette ascendance plutôt? Est-ce que c'est aussi un poids?
Alors, il faudra lui poser la question.
Mais il va certainement parler avec lui.
Il est certain qu'il voit probablement les choses différemment de moi. Il a son parcours, moi j'ai le mien. Le mien est très marqué aussi par les conditions de mon enfance, qui ne sont pas les siennes, puisque c'est mon fils, je l'ai élevé, donc dans des conditions fort différentes. Si vous voulez, chez moi, c'était un musée. Hein, il y avait des épées, il y avait le tableau.
Le tableau de David,
etc. Donc ça conditionne, et donc le décalage avec le monde réel est d'autant plus important. Et donc la rupture est d'autant plus forte.
Et à lire votre livre, La Liberté Bonaparte, on s'aperçoit, on découvre qu'il y a eu des destins, justement, dans la famille Bonaparte au sens large, des destins très, assez originaux, on va dire, j'allais dire, pittoresques. Il y a un fondateur du FBI, il y a une psychanalyste qui était amie de Freud, Marie Bonaparte, qui a écrit sur le plaisir féminin, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, en effet, je ne me suis pas trouvé seul dans cette famille, non seulement à cause de Bonaparte, mais aussi à cause de bien d'autres, à commencer par Lucien, le frère de Bonaparte, qui a fait le coup d'État de Brumaire, et qui était un homme de la Révolution, qui s'est opposé à son frère au moment de l'Empire. Et puis, il y en a eu d'autres, et je parle effectivement de Marie Bonaparte, psychanalyste, fondatrice de l'école parisienne de psychanalyse, donc de la psychanalyse en France, très proche de Freud, qui est une personnalité tout à fait extraordinaire, et qui était une Bonaparte.
Et on voit que donc le bonapartisme, si j'ose dire, mène à de multiples chemins, en tout cas.
Alors, C'est pas le bonapartisme.
Le nom de Bonaparte. Oui, c'est ce que, c'est ce que je voulais dire, bien sûr. Mmh. En tout cas, on s'approche du bicentenaire, donc de la mort de Napoléon Ier. Ce sera le 5 mai. Et cet anniversaire, eh bien, c'est l'occasion d'une grande exposition, Nadia.
Et la billetterie est déjà ouverte, en tout cas si la situation le permet. En effet, la grande exposition Napoléon va se tenir à Paris, à la Villette, à partir du 14 avril prochain. Et ce sera l'occasion pour le grand public de découvrir des documents totalement inédits, dont cet arrêté du 16 juillet 1802, dans lequel Bonaparte ordonnait donc le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. Ce sont trois chercheurs qui ont remis la main sur ce document. Et voilà ce que dit l'un d'eux, c'est l'historien Jean-François Niort. Je le cite, « Bonaparte pense alors que la Guadeloupe est à feu et à sang, ce qui est faux, et que la restauration de l'ordre passe par le rétablissement de l'esclavage. Il est aussi convaincu que l'esclavage dans les colonies va assurer la prospérité de la France. » Autrement dit, les motivations étaient géopolitiques, elles étaient idéologiques, mais elles étaient aussi économiques. Ce qu'on a assez peu dit, est-ce que c'est également l'analyse que vous faites, vous, de ces documents?
Oui, je pense que c'est effectivement très important, parce qu'il est tout à fait normal que l'on interroge l'histoire, que les gens interrogent l'histoire avec les valeurs qui sont les leurs aujourd'hui. Et donc ça ne me choque pas du tout qu'on remette en cause l'esclavage, la question des femmes, etc., et même la question de la guerre, si vous voulez. Mais par contre, au préalable, il faut déjà apprendre l'histoire et au moins la comprendre. C'est-à-dire comprendre la série des causes et des effets qui mènent à une décision publique. Faute de quoi, on est conduit à n'émettre que des jugements de valeur et donc à ne pas comprendre les choses. Ce qui est très dommageable, même pour les temps présents. Pour les temps présents, il est important que nous sachions d'où nous venons et où nous allons, conditionnés en partie par l'histoire.
Mais elle vous agace, cette polémique autour de la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte? Alors, est-ce que vous trouvez, oui, qu'il faut quand même qu'il y ait débat historique?
Mais bien entendu, il faut qu'il y ait un débat historique, ça me paraît tout à fait naturel.
Mais est-ce qu'il faut le célébrer quand même?
Alors, commémorer et célébrer, c'est pas tout à fait pareil.
C'est ce qu'on va certainement faire.
Commémorer, ça veut dire, la racine, c'est mémorer ensemble, se souvenir ensemble. Ça veut dire avec des points de vue différents sur une même réalité. Ça me va. Célébrer, il y a un jugement qui peut être un jugement politique ou moral, ça me voit moins bien.
D'accord.
Le bonapartisme, pour le coup, et la trajectoire de Napoléon Bonaparte, c'est aussi celle d'une conquête, qui est souvent d'ailleurs exaltée aujourd'hui par nos responsables politiques. On a souvent dit, en tout cas tel ou tel ancien président de la République, ou actuel d'ailleurs, se sont parfois dit, ou on les a parfois dit, un peu bonapartistes. Nicolas Sarkozy jadis, Emmanuel Macron aujourd'hui. Lequel pour vous représente, incarne le mieux cette filiation?
Écoutez, pardonnez-moi, je pense que c'est une facilité journalistique.
qui est cultivée aussi par certains politiques.
Qui est cultivée, bien entendu.
Profiter de cette filiation.
J'en conviens. Mais au fond, ce qui caractérise l'œuvre de Napoléon, c'est quand même le progrès. Parce que voilà un homme qui prend la France au sortir de la Révolution, une France déchirée par d'innombrables crises, la guerre civile, la guerre religieuse, les invasions donc, des monarchies coalisées, et qui donc met en place ces masses de granit qui réorganisent la France nouvelle et qui, à long terme, prépare la République. Pas directement, mais qui la prépare. Y compris au travers de l'Empire. Bon. Donc c'est quand même un homme de progrès. C'est quand même... Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important pour nos temps actuels. C'est-à-dire que nous avons besoin, dans des situations radicalement nouvelles, avec des enjeux complètement nouveaux, dont vous avez cité tout à l'heure la question de l'écologie, qui est extrêmement préoccupante, nous avons besoin de gens avec des conceptions nouvelles, qui est une volonté réelle de changer les choses.
Ça veut dire, Charles Bonaparte, qu'un républicain engagé à gauche, comme vous l'êtes, vous avez été élu premier adjoint de la mairie d'Ajaccio à gauche, vous avez soutenu Anne Hidalgo en 2014 à la mairie de Paris, vous donc défendez, vous engagez pour l'écologie, d'être un républicain engagé à gauche aujourd'hui, c'est en fait une forme de filiation assez logique par rapport à l'homme de la modernité qui était Napoléon, justement, qui a posé les bases préalables à la République.
Mais je n'ai pas besoin de cela, mais je le crois profondément. Ma compréhension de l'œuvre de Napoléon Bonaparte, c'est une œuvre de progrès. C'est-à-dire, c'est un homme de progrès dans un moment et dans un temps donné, d'où l'importance de comprendre l'histoire. Mais c'est en aucun cas une leçon de conservatisme.